A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Marine Bachelot-Nuyen vient de Bretagne, en France. Oui, mais avant. Avant quoi? Bah, tu vois ce que je veux dire? Moi non, je préfère pas. Marine Bachelot-Nuyen, auteur-metteur en scène, vient du plateau. Le théâtre étant désormais la terre d'ancrage de cette franco-vietnamienne qui s'inscrit avec passion dans des questions féministes et post-coloniales. Quarantenaire, avec des petites lunettes de lettré sur le nez, de pièce en pièce, elle maintient le corps dans une pression dramaturgique appuyée. Notre regard en sol majeur ira renifler du côté de « À la racine » ou bien « Les ombres et les lèvres », une pièce qui s'embarque au pays de sa mère et du mouvement LGBT vietnamien. Création de 2016, reprise ce mois-ci au Théâtre National de Bretagne, avant de s'envoler pour Saigon, comprendre Ho Chi Minh Ville, en mars prochain. Bonjour Marine Bachelot-Nuyen.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Vous êtes d'où ?
Je suis de Rennes, j'y suis née en Bretagne. Après, je pense que je suis de plein d'endroits, de par les origines vietnamiennes du côté maternel, de par un petit ancrage en Italie. Et puis, je suis de tous les endroits, paysages et langues et livres qui me parlent.
Ça m'intéressait d'avoir votre réponse comme ça rapide, au débotté, à cette question qui mérite franchement bien tout un en sol majeur.
T'es comme toute première fois.
Et oui, c'est important les premières fois. C'est toujours important. Alors, qu'est-ce qui a provoqué chez vous ce désir d'aller au Vietnam pour la première fois en 1998 ?
Ben, je pense une curiosité, une volonté de comprendre d'où venait ma mère, ma famille, une envie de voyage et une envie de partir.
Mais tout soudain.
Oui, la première année, en fait, comme j'avais pas forcément beaucoup d'argent pour voyager, j'ai postulé à des bourses de voyage qui s'appelaient les bourses Zelidja et qui permettaient à des jeunes gens de moins de 18 ou 21 ans, je crois, de faire un projet et de partir faire un voyage d'études. Et les conditions, c'était de ramener un journal, un rapport d'études, un carnet de comptes. La première année, je suis partie faire un tour d'Europe, Italie, Grèce, Turquie, Pays de l'Est, et j'avais la possibilité de continuer la deuxième année, donc j'ai décidé de partir au Vietnam et procéder un peu selon le même principe, c'est-à-dire de recueillir des textes auprès des gens que je rencontrais et puis de les prendre en photo.
Donc vous avez effectivement la charge de, puisque vous partez dans le cadre d'une bourse, de recueillir des témoignages, c'est ça ?
C'est ça, je demande aux gens que je rencontre de m'écrire ou de me dessiner quelque chose sur le Vietnam, sur la perception de leur pays. Donc je ne sais pas toujours ce qui est écrit, puisque la plupart du temps c'est en vietnamien, langue que je ne connais pas. C'est un prétexte pour provoquer la rencontre. Et c'est une chose qu'on peut faire dans un train, dans la rue, dans un restaurant ou ailleurs.
Et puis vous qui militez vraiment pour les récits individuels, oui. Là vous êtes servi. Alors vous nous avez ramené sur votre ordinateur une ou deux photos qui peuvent évidemment cacher en elles un récit. C'est ce qui nous intéresse toujours en sol majeur. Qu'est-ce que vous avez alors ? Première photo sous les yeux.
La première photo, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le bus. Un bus qui voyageait pendant plus de 24 heures vers Pleiku, dans les hauts plateaux du Vietnam, où il y a des ethnies montagnardes. Et là, je fais la belle rencontre de Nguyen Huy Nhat, qui parle bien anglais et qui est un poète, un homme qui, enfant, a vu la violence de la colonisation française et des soldats français agressant les femmes, tuant, voilà. Et en fait, il a un destin assez intéressant puisqu'il est d'abord moine bouddhiste et qu'il envisage de s'immoler comme plusieurs moines bouddhistes l'ont fait ou ont voulu le faire dans les années 70. Et ensuite, il rencontre la religion protestante, il se convertit au protestantisme et il reste proche du Viet Minh et du Viet Cong contre l'impérialisme. l'impérialisme tout en restant plutôt dans la religion. Et au moment où je le rencontre, on est bien des années plus tard, et il y a eu évidemment les excès du communisme vietnamien, et il me parle aussi beaucoup des questions de censure, de liberté d'expression. Lui-même a maille avec le régime, parce qu'il a été aussi travailleur social, éducateur, et qu'il a pu travailler avec des associations occidentales. Et voilà, c'est une très belle rencontre. Et là, il est sur le marché de Pleikou avec un appareil photo et des lunettes d'intellectuel lettré.
Autre photo, autre récit.
Là, on arrive à Hoi An, qui est une petite ville qui est passé par des influences de colonisation japonaise, française, chinoise, donc qui est architecturalement assez intéressant, très préservé, et qui aujourd'hui est un Disneyland touristique, mais à l'époque ça l'était quand même un petit peu moins. Et là c'est des enfants, je reconnais Ip, Nyan et deux autres dont j'ai oublié les prénoms, et qui vendent des petites choses dans la rue, et en fait je sympathise avec eux. Ils sont sous un grand flamboyant, un arbre aux fleurs orange vif. Et eux, ils sont à devoir chasser les touristes. Et je vis aussi cette situation de me voir finalement.
De l'autre côté du miroir.
C'est ça.
Quel est le bilan de ce voyage pour vous ?
Il est très dense. Je pense que je m'approprie les paysages, l'histoire et les effets concrets de cette histoire mouvementée du Vietnam dans les corps et dans les mémoires parfois abîmées des gens. Je me rends compte aussi de la propagande du parti qui circule dans les discours. Et je comprends en fait que je suis, vous voyez ces fantasmes où on croit que je suis vietnamienne, non, je suis occidentale, et les Vietnamiens m'identifient comme telle, même si je suis de double origine. C'est quelque chose d'assez riche.
Alors c'est tellement riche qu'il était écrit évidemment qu'il y aurait un retour pour vous au Vietnam. Il a lieu en 2014, mais cette fois sur les traces de la communauté LGBT, lesbien, gay, bi et trans. Où, comment ? Dans ce Vietnam encore un peu confucianiste, on ne sait pas vraiment, communiste, ça c'est sûr, et en pleine économie de marché, comment dans ce Vietnam on vit aujourd'hui l'homosexualité ? Et vous en êtes revenue, Marine Bachelot Nguyen, avec une pièce intitulée « Les ombres et les lèvres ». Alors juste un mot, à quoi correspond ce titre ?
Alors c'est un titre retournement du stigmate, puisque si on traduisait ce titre qui vient du vietnamien, ce serait les sales pédés, les sales gouines, puisque bong, je le prononce mal, mais c'est une insulte pour les homosexuels hommes. Donc bong, ça veut dire ombre. Au Moy, on sait pas tellement ce que ça veut dire, mais c'est une fleur, c'est les lèvres, et c'est une insulte pour les lesbiennes.
Ah, comme avatar.
Tu n'étais pas encore là, à l'époque glorieuse de la colonisation de l'Indochine, lorsque scientifiques, militaires, médecins, écrivains, voyageurs et voyageuses glosaient sur le genre des indigènes.
Tu as raté ce premier regard amoureux.
Cette première étreinte historique entre la France et le Vietnam.
Mais tu es issu de cette histoire, tu en es une conséquence.
Un produit dérivé, un avatar.
Avec sur scène quatre interprètes, armés chacun de chapeaux coloniaux. Là, on est absolument au début de la pièce « Les ombres et les lèvres ». Marine Bachelot Nguyen, à quoi correspond ce « tu » qu'on vient d'entendre et qui est assumé par les quatre interprètes ?
C'est à mon jeu pudique, puisque dans cette pièce, pour la première fois, je le prends parti d'être présente biographiquement, autobiographiquement. Voilà, c'est dû aussi au processus d'écriture et de création, à ce voyage au Vietnam. Mais je choisis, plutôt que de dire je, de dire tu, d'abord parce que ça permet une distance, une mise à distance plus pudique, et aussi puisque tout simplement ça ouvre une adresse théâtrale qui permet aux spectateurs de se fondre dans cette histoire ou de s'identifier.
Est-ce qu'on a affaire là à des personnages ?
Là, dans le passage qu'on vient d'entendre, ce « tu », c'est vraiment moi qui parle. Et après, dans la pièce, ces quatre interprètes passent de ce récit narratif à l'incarnation de multiples personnages. À un moment donné, ils jouent effectivement des colons français. À d'autres moments, ils jouent des jeunes des jeunes gens LGBT dans la Pride à Saigon, des personnages du passé, du présent. Voilà, c'est aussi une aventure d'incarnation ou de figuration, finalement, pour les quatre interprètes. C'est conçu
avec
comme ça.
Un détail qui n'en est peut-être pas un, c'est que ces comédiens, pour certains, ont des physiques asiatiques.
Oui, mon but était de travailler avec des Blancs et des Asiatiques, pour le dire clairement.
Pourquoi ?
Avec des filles et des garçons. Finalement, on pourrait dire que ça raconte aussi qui je suis, mais ça raconte aussi qui nous sommes, aussi parce que moi je pars au Vietnam, un peu parce qu'il y a la manif pour tous en France et que c'est tellement violent qu'il me semble intéressant de faire un pas de côté et d'aller regarder ce qui se passe au Vietnam où il y a un mouvement de jeunesse, un mouvement pour les droits amoureux sexuels très dynamique, très ouvert sur l'avenir, alors qu'on est plutôt dans une période un peu de régression réactionnaire en France, il me semble, avec les débats autour du mariage pour tous. Et donc voilà, c'est aussi à l'image de ce spectacle que veut parler aussi bien de l'Asie que de la France.
Et alors, comment il naît ce mouvement LGBT dans ce Vietnam où quand même on vit, vous dites, vous parlez d'ouverture, mais c'est un Vietnam où on vit encore avec les parents et les anciens.
Tout à fait. Ben, un peu comme dans tous les pays, toutes les cultures, ces identités homosexuelles, trans, ont existé de tout temps. Et on peut dire qu'il y a un premier mouvement de répression et de diabolisation de l'homosexualité au moment de la colonisation française. Et puis après, d'autres mouvements de répression, notamment, paradoxalement, quand le Vietnam, dans les années 90, se réouvre à l'Occident, il y a un peu un retour à l'ordre moral où on dit attention aux mauvaises influences venant de l'Occident, au jeu d'argent, à la prostitution, à l'homosexualité, qui évidemment ne sont pas dans la culture vietnamienne, mais viennent d'ailleurs. C'est ça qui est fou et paradoxal, c'est qu'au début des années 2000, le gouvernement rediabolise l'homosexualité. Les personnes LGBT se replient derrière ses ordinateurs, les choses se réorganisent un peu plus en clandestinité. Et c'est à partir de la fin des années 2000-2008 que de nouveau ils se rassemblent en chair et en os et que progressivement émerge un mouvement LGBT très actif, financé en partie évidemment par les pays occidentaux, mais qui est quand même une organisation très vietnamienne et très intéressante.
Bref, suite à nos premières réunions, ASI a mené une étude statistique sur la représentation de l'homosexualité dans la presse vietnamienne.
Avec ça, on avait une preuve, une arme. Et on a contacté les journalistes.
Pour leur proposer des rencontres, des interviews.
La plupart n'avaient jamais rencontré d'homosexuels de leur vie.
Ils s'attendaient à voir des monstres.
Comme ils étaient un peu curieux, ils sont venus.
Et on leur a parlé de la réalité de nos vies, des problèmes concrets avec la famille, le travail.
Ils nous ont écoutés.
Petit à petit, le contenu des articles a évolué.
Bon, au début, sur les photos, ils nous mettaient des bandeaux noirs sur les yeux.
Ça faisait très repris de justice, criminel anonyme.
On leur a dit d'arrêter ça, qu'on souhaitait apparaître à visage découvert.
Il s'agissait de ça, montrer que nous étions des personnes, des visages comme les autres, pour que des jeunes ou des gens au placard puissent s'identifier et oser sortir de l'ombre.
Les médias et la presse, au Vietnam, c'est une clé.
Avec, pour un seul majeur, sur la scène de cette pièce documentée, les ombres et les lèvres, des ballons roses de la première Gay Pride donc, qui a eu lieu au Vietnam en 2012. Alors évidemment, on le comprend à travers cet extrait, la médiatisation de l'homosexualité a fait bouger les politiques. Est-ce que ça a fait bouger les mentalités en profondeur ?
Il me semble que c'est en cours et je pense que finalement l'homophobie est moins enracinée chez les gens que par exemple en France. J'ai l'impression que dans les familles, les choses bougent assez vite. Un jeune homme me disait, depuis que le journal que lit mon père tous les jours dit que l'homosexualité n'est pas un problème, il a changé d'avis sur moi et sur ma vie. Donc
En même temps, le mot sida est quand même un mot qu'on a du mal à prononcer. La prise en charge n'est pas une affaire simple. Oui. Est-ce que le mariage entre homosexuels est possible ?
Alors, pas encore. En tout cas, l'union entre personnes de même sexe est décriminalisée et ça a failli passer. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est la question des droits des personnes transgenres qui a été un peu prioritaire dans les appareils législatifs.
Mais ce fonds de tolérance dont vous parliez, Marine Bachelot-Nguyen, peut-être qu'on le doit à un fonds traditionnel ou à un fonds culturel aussi. La tolérance existe par exemple du côté de ce qu'on appelle là-bas les Aïna Maïnou, qu'on va traduire par...
Mi-homme, mi-femme.
Voilà, ils ont la capacité d'accueillir des esprits. Des esprits de personnalité historique, Ils vont les accueillir dans leur corps et dans leur âme. Et ça donne lieu sur scène à une vision très... On est vraiment dans le théâtre presque élisabétain, quoi. Mm-hmm. Un homme joue une reine. Sur fond de fumigène, dans un couchant orangé, de derrière un paravent, sort un roi des temps anciens, éventail à la main et perruqué. Les ombres et les lèvres extraits.
Je suis le roi Raïdin. Je règne au début du 19e siècle. On m'a doté d'un sérail de 12 épouses qui m'indiffèrent. J'aime les robes, les bijoux et les corps émouvants des gardes du palais. Je les convoque dans ma chambre en secret. Dans tout le pays, on jase sur moi, le roi efféminé. On raconte que je suis infertile. Je n'en sais rien, mais je ne veux coucher avec aucune de mes épouses. Ce serait grotesque.
Oui, en sol majeur aime beaucoup ce roi venu du Vietnam d'autrefois nous dire sa passion des hommes. Dites-nous en plus sur ces Aina Mainu, Marine Bachelot Nguyen.
Bon, c'est un principe qu'apparemment qui existe dans le bouddhisme, mais ce sont des prêtres et prêtresses qu'on appelle les Donko dans cette religion de la déesse mère et qui ont cette capacité à accueillir aussi bien en eux les esprits masculins que féminins et qui, lors de cérémonies rituelles, se transforment comme ça en personnages du passé. Je pense que c'est une niche historique au Nord-Vietnam pour les personnes homosexuelles qui, justement, par ce statut un peu sacré de prêtre, de prêtresse, pouvaient vivre et peuvent vivre leur homosexualité en étant acceptées.
Oui. Sur scène, il y a de la très belle vidéo. Hein. J'ai vu des portraits, notamment, de jeunes gays vietnamiens magnifiques. Mais il y a surtout, et on vient de l'entendre, plusieurs niveaux de récit dans votre pièce.
Oui, c'est dû au fait qu'il y a à la fois le côté documentaire, les témoignages que j'essaie de restituer pour certaines. Il y a évidemment mon récit intime de retour au pays de ma mère, qui est aussi un récit sur le deuil, puisque je fais ce voyage un an après la disparition de ma mère, donc il y a cette dimension aussi. Je pense que c'est un spectacle qui m'aide à faire le deuil et à ritualiser peut-être de façon à la fois française, occidentale et vietnamienne ce départ.
Et peut-être à accoucher de vous-même, enfin, vous dites que votre propre vécu de lesbienne française est entré en ligne de compte évidemment dans ce travail. Est-ce que toute cette aventure, c'est-à-dire aller au Vietnam, vous immerger dans cette famille LGBT, c'est une famille pour vous, jusqu'à créer ce spectacle en France, peut-être en hommage à cette mère qui vient de partir, est-ce que ça a eu un impact et sur la femme et sur l'Eurasienne que vous êtes ?
Évidemment, je pense que ça renforce les ancrages, les enracinements, les identités, ça les enrichit sans les figer, hein, parce que je me considère vraiment très, très en mouvement et je veux pas être rangée dans des cases.
Toujours zéro tension érotique pour l'occidental de mère vietnamienne vis-à-vis des vietnamiennes, donc.
Vaste question. En tout cas, c'est vrai que Les ombres et les lèvres, c'est vraiment le spectacle qui parle le moins de sexe et de sexualité de toutes mes pièces. Là, paradoxalement, on est très sage dans Les ombres et les lèvres. Pudeur, peut-être.
Vous avez l'art de ne pas répondre à la question. Vous, Marine, alors je ne sais pas, mais cette belle fugueuse de Kenny Arcana qui va nous interpréter Je me barre, est-ce que vous savez d'où elle vient ?
D'Argentine et de Marseille. Et puis j'adore Kenny Arcana pour sa parole, pour sa politisation et voilà, sa fraîcheur et sa force.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant, je vais pas la faire patienter. 1, 2, 3, ciao tout le monde. Allez, pas le temps pour blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibe sortie. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Ici, on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi, j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Chacune de mes courses dans les bras de la liberté. Un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson. Un éveil, même quand je dors, connecté à mon intuition. J'ai rien.
rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue, loin du monde des adultes, illogique et rigide, fugitif.
Et oui, l'idée c'est de se barrer. Le mode d'emploi c'est Kenny Arcana qui l'a. On est presque à la porte de cette première partie avec Marine Bachelot-Nuyen. Rendez-vous pour la suite dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Il y a du voyage goûteux en elle, de la papaye du Vietnam et du cidre de Bretagne. Et puis aussi de la sensibilité eurasienne. Mais est-ce que ça existe? Ce sera une question en sol majeur. Du militantisme aussi, du politique, du féminisme et beaucoup de théâtre. Joué au Festival d'Avignon, en Afrique, en France et peut-être hors les murs, avec sa compagnie Lumière d'août, Marine Bachelot-Nuyen regonfle les ballons roses de sa dernière pièce « Les ombres et les lèvres » sur le mouvement LGBT au Vietnam qu'elle présentera prochainement à Ho Chi Minh Ville.
H comme histoire coloniale.
Ben oui, parce qu'il y a ça en vous, de l'histoire coloniale, de l'Indochine, sur votre livret de famille. Racontez-nous un petit peu cette branche maternelle jusqu'à votre mère qui quitte donc ce Vietnam en 1956, à 11 ans.
Oui, vers cet âge-là. Ma famille vient du Nord-Vietnam, donc mon grand-père d'un village qui s'appelle Duyen Phuc, fils de propriétaire terrien, et ma grand-mère est issue d'une famille de Nam Dinh, de mandarins lettrés. Donc ma mère naît en 1947, arrive la lutte du Viet Minh contre la puissance coloniale, et il se trouve que mon grand-père manque de rejoindre le Viet Minh, mais rate le rendez-vous.
Il s'est dégonflé ?
Je ne sais vraiment pas, c'est un peu les légendes familiales, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et finalement, mon grand-père, qui était pas mauvais en langue, autodidacte, trouve du travail comme traducteur pour l'armée française. Il travaille pour le deuxième bureau, service de renseignement. Et donc apparemment, il traduit la propagande marxiste du Viet Minh pour les Français.
C'est un espion.
C'est une sorte d'espion, je crois que c'est, mais c'est pas un espion qui y croit, je pense que c'est un peu circonstanciel, mais voilà, ça raconte aussi dans la famille de mon grand-père, voilà, il y a des gens qui sont partis rejoindre le Viet Minh, d'autres qui sont étaient de l'autre côté.
Et votre mère, alors dans quelles conditions elle est rapatriée peut-être, je ne sais pas, en France?
Oui, alors en fait, suite après Dien Bien Phu, beaucoup de Vietnamiens se posent la question, les Vietnamiens du Nord, de partir, de rester. Ma mère, ses frères et sœurs et ma grand-mère sont évacués au sud Vietnam. Ils y restent pendant un an, sont réfugiés, etc., etc. Et ensuite, les militaires ont le choix soit de suivre l'armée française qui se replie au Laos, soit de toucher 2 ans de salaire. Et mon grand-père choisit, je pense pour faire survivre sa famille, de ne pas rester au Vietnam. Et donc, ils partent tous au Laos, où ils vivent pendant aussi quelques mois dans la jungle, dans un camp militaire français, où ma mère est aux prises avec un instituteur corse qui lui enseigne nos ancêtres les Gaulois et le français à la baguette, qui empêche les enfants vietnamiens de parler vietnamien chez eux. Et en fait, après, ils partent en bateau jusqu'à Marseille et puis de Marseille à Fontainebleau.
Donc votre mère arrive francisée, on va dire, quasiment. En
oui.
Tout cas, elle parle français. Comment se passe son assimilation ici, si le mot ne vous choque pas?
Eh bien, je pense que mon grand-père était très très attentif à ce que ses enfants parlent français et réussissent, hein, comme dans beaucoup de familles vietnamiennes. Et ma mère, voilà, était plutôt une bonne élève. Sur les photos de lycéennes que j'ai d'elle, je vois qu'elle est la seule parmi plein de jeunes filles de bonne famille blanche, française, comme il faut. Donc je pense qu'elle se fond dans le paysage. Et voilà, quand elle arrive à la fac, je pense qu'à la Sorbonne, en lettres classiques, elle rencontre des copines un petit peu plus coquines. Voilà, je pense qu'elle trouve une émancipation, c'est 68. Donc ma mère, c'est quelqu'un de très adaptable, qui arrivait vraiment à s'adapter à beaucoup de choses.
On voit des hommes, torse nu, dans des rizières, avec leur chapeau conique sur la tête, ou bien on voit un pouce-pouce tiré par un anamite sur lequel un marin occidental, assis, est en train de fumer. On est au cinéma avec Riti Pan, réalisateur franco-cambodgien, et son film La France est notre patrie, monté exclusivement et sans commentaire à partir d'archives en noir et blanc de l'Indochine française. Il s'en explique.
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire, donc ça paraît naturel et normal que de se pencher sur cette période de la colonisation. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on fabriquait l'image à l'époque. C'est comme une sorte d'archéologie, vous voyez, ou anthropologie. Quand vous trouvez un os des Homo sapiens ou avant, vous arrivez à déterminer ce qu'ils se nourrissaient, comment, dans quel environnement ils vivaient. Quoi. Ben, c'est pareil comme image. Je trouve que c'est intéressant de retravailler l'image, donc pas seulement en tant que l'image historique, mais aussi l'environnement de cette image, la fabrication de cette image-là. Les gens qui fabriquaient cette image avaient une idée. Comment montrer les autres, montrer eux-mêmes aussi. C'est l'époque, moi je ne porte pas de jugement. Mais 60 ans plus tard, 100 ans plus tard, l'image révèle aussi une certaine vérité. Comment je vis cette image en tant que descendant d'indigène. Et donc il ne faut pas le regarder avec une sorte de colère ou une cesse d'envie de haine ou de se sentir agressé, quoi.
Excellent, Sol Majeur pour RFI de La France est notre patrie. J'ai envie de dire merci Riti Pan pour ces images parce que j'ai l'impression qu'elles passent même à la radio. Comment vous avez, vous, Marine Bachelot-Nuyen, reçu ces images presque archéologiques qui montrent le quotidien banal de ce qu'a été la colonisation ?
C'est un film documentaire qui m'a un peu bouleversée. Je crois qu'au bout de, je ne sais plus combien de temps il dure, mais j'ai fini vraiment très très en larmes avec cette accumulation d'images du passé, mais qui finalement ont une résonance tellement forte. C'est-à-dire que les images où on voit ces hommes colons français tenant des femmes vietnamiennes annamites, moi j'ai l'impression de les avoir revues aussi dans des contextes contemporains touristiques.
Vous diriez que les stigmates de la colonisation sont toujours là.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui perdure. C'est bouleversant aussi de voir concrètement ces écoles coloniales, ces classes où on faisait écrire à ces jeunes Vietnamiens ou Laotiens ou Cambodgiens, la France est notre patrie.
Donc vous vous êtes senti agressé.
Ouais, je sais pas si j'ai été en colère, mais j'ai été troublée, brassée. Il y a un phénomène peut-être d'identité. Je viens de là. Après, on voit aussi des images qui viennent d'Afrique, parce que justement, Riti Pan embrasse, mais comme l'on fait aussi Ho Chi Minh, par exemple, quand on lit ses écrits de jeunesse, il parle aussi bien de la colonisation au Vietnam, mais à ce qui se passe à Madagascar, en Algérie, il y a un internationalisme très très fort. Et je trouve que Riti Pan embrasse très bien cela. Effectivement, je pense que lui, il en fait un film d'apaisement. Et moi, je suis très, très touchée par le carton qu'il met à la fin. Voilà, les images se jouent de nous. Je les ai montées en silence à ma façon indigène. Il n'y a pas d'histoire universelle. Donc, je pense qu'il y a aussi ce fait de renverser le regard et de dire les images ont été faites par les Blancs, par les Occidentaux, parce que c'est eux qui avaient les moyens. Mais regardez comment ils se montrent et nous montrent et quels sont les récits qui pourraient être vus et raconté de la part des indigènes.
Alors je ne sais pas comment il résonne ce mot en vous, le mot patrie, Marine. Finalement, c'est quoi l'enjeu citoyen pour votre génération née en France, d'une mère vietcieuse, c'est-à-dire de ces Vietnamiens étrangers ?
L'enjeu, je pense, c'est d'exister, de prendre la parole. La question de l'intégration, je pense qu'on l'a bien eu. Ça a été une pression familiale, sociale. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la question de la visibilité, de la prise de parole, de l'émergence de récits. Comment on fait avec les silences de nos grands-parents ? Comment on affirme qui on est dans ce pays français qui a colonisé l'Indochine et qui fait qu'on est là. Il y a cette traditionnelle invisibilité des Asiatiques. Enfin, je pense qu'on est une génération à vouloir prendre la parole, raconter et sortir aussi du cliché dans lequel on peut nous mettre.
On l'entend quand on vous écoute, Marine Bachelot-Nuyen. Vous avez fait des études de lettres. Vous avez été quasiment, je crois, jusqu'au doctorat. Vous n'avez pas le temps, vous faites du théâtre. Hein, donc c'est la faute au théâtre. Mais à quel moment, vous, la descendante décolonisée, à quel moment vous avez décidé d'être militante ? Peut-être dans la rue, mais en tout cas aussi sur un plateau de théâtre.
Ben, je pense que c'est venu... D'abord, il y a eu ma rencontre avec le féminisme et le féminisme intersectionnel qui m'a permis... Le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qui se préoccupe du sexisme et croisé avec les questions de classe, de race, d'orientation sexuelle. En tout cas, cette idée de, que les systèmes de domination s'imbriquent, s'entrelacent et qu'il faut les penser ensemble. Quand j'ai lu « Classé, dominé, qui sont les autres ?» de Christine Delphi, ça a été une petite révélation. En plus, j'étais à Bamako, au Mali. Enfin, plein de choses se brassaient. Et oui, je pense que mon œuvre est devenue de plus en plus militante avec le féminisme, mais toujours aussi sous-tendue avec ces questions de racisme, de colonialisme, d'héritage colonial, et ce qui est une façon aussi d'épouser hein, mes différentes identités, origines, puis de militer pour ce à quoi je crois. Donc c'est des rencontres aussi, hein, c'est des rencontres avec les membres qui sont ceux aujourd'hui et celles de Décoloniser les Arts, un collectif qu'on a fondé.
Oui, c'est dirigé par Françoise Vergès. J'aimerais juste te dire un dernier mot sur cette question coloniale, parce que je vois que vos petites lunettes de lettré sur le nez n'ont rien loupé, pas même le racisme colonial que vous évoquez dans Les Ombres et les Lèvres, dont on parlait en première partie, ce racisme qui consistait, par exemple, à étudier ce qu'il y avait dans le slip des indigènes.
Oui, les Français arrivant en Indochine étaient, comme en Afrique ou ailleurs, étaient très très intéressés par tout ce qui était mesures anthropométriques, sexualité. Concrètement, les scientifiques, les médecins prenaient des mesures, mesuraient la taille des sexes, la profondeur des vagins, mettaient leurs doigts dans les anus pour voir comment c'était fichu. Donc on est dans cette ère scientifique racialiste qui veut théoriser la différence des races avec voilà, une intrusion extrêmement violente et une répression des pratiques non hétérosexuelles, hétéronormatives. Les médecins mettent les doigts dans les anus pour vérifier que les jeunes hommes sont ou non sodomites. Et s'ils le sont, on les envoie au pénitencier ou on les réprime. Donc ouais, ça m'intéresse beaucoup ces premières fois-là aussi.
Ça, c'était hier, et aujourd'hui, donc, il s'agit de décoloniser les arts. On comprend, rien qu'avec ce titre, un peu l'idée générale, mais concrètement, le combat numéro un de cette association, c'est quoi ?
Je dirais que c'est la question des récits. Récits liés aux histoires de l'esclavage, des diasporas, des immigrations, de la colonisation. Et un vrai travail à faire pour qu'on ait un musée de la colonisation un jour en France, pour que davantage de pièces de théâtre...
Militer pour un musée de la colonisation, carrément.
Ben, en tout cas, les instances culturelles, du musée aux bibliothèques, aux plateaux de théâtre, aux écrans de télévision et de cinéma, doivent assumer cette histoire parce qu'encore une fois, elle est explosive. Si on n'en parle pas, on voit bien que ça fracture la France d'aujourd'hui.
Prendre racine, ça signifie quoi pour vous ?
Je vais essayer de me citer.
Marine Bachelot-Nuyen.
Transformer le terreau sur lequel on pousse, extirper les racines qui nous constituent, c'est un travail long, extrême, radical.
Et nous y voilà, à la radicalité. Je savais que ce mot vous intéressait. À la racine, c'est le titre d'une de vos pièces, radicale donc, puisque ça veut dire quoi ?
Saisir les choses à la racine, comme le dit Marx et Angela Davis.
Alors le casting de cette pièce que vous avez conçue pour cinq personnages est absolument réjouissant, puisque c'est la rencontre au cours d'un séminaire sur le féminisme entre Angela Davis, Jésus de Nazareth, Scheherazade, Ève et puis ce bon docteur Freud.
Moi, je serai Sigmund. Sigmund aussi, à sa façon, veut aller à la racine, découvrir enfin le mystère du continent noir. Sigmund aimerait peut-être, dans le fond, que son pénis se dote d'un cerveau. Qu'il puisse planter son pénis-cerveau dans le sexe d'une femme. À moins que son fantasme soit tout simplement de ficher son pénis dans le cerveau d'une femme et qu'il fouille, ausculte, cartographie, résolve enfin le mystère. Sigmund est né au 19e siècle, il en a conservé quelques séquelles. Il traverse les siècles suivants, tenace. Sigmund, c'est aussi l'étalon, l'incarnation de l'homme blanc, occidental, hétérosexuel, qui n'a pas de problème d'argent. Il en faut bien un. Ce sera moi.
Je vous avoue que moi qui ne suis pas forcément une cliente des séminaires, je vais peut-être m'y mettre. Extrait en sol majeur de À la racine, où la confrontation d'un Sigmund Freud et d'une Angela Davis vous permet quoi exactement, Marine Bachelot-Nguyen ?
Ben je pense de raconter justement ce féminisme intersectionnel, on dirait aujourd'hui peut-être afro-féministe, puisqu'Angela Davis en est une des porteuses. En tout cas, c'est une femme qui porte à la fois les idées communistes, féministes, anticapitalistes.
Et afro-descendante.
Et afro-descendante, évidemment, face à Sigmund, qui est un peu l'incarnation de cet homme blanc aux idées pleine de compassion pour les femmes, dénonçant le sexisme comme étant une réalité des quartiers populaires, de l'Orient, de l'Afrique, et se dédouanant évidemment de tout cela en tant qu'homme blanc. C'est un peu ce discours, hein, mais qui a été repris par des Sarkozy, par des Valls, que le sexisme c'est ailleurs. Puis voilà, il y a aussi ce Sigmund qui est un petit peu un obsédé
du continent noir. Dans ce quatuor, effectivement, il y a ces deux autres figures, Jésus et Scheherazade. On n'a pas la place pour Ève, hein, ça prend trop de place là tout à coup. Mais ce Jésus, donc, dans votre pièce, qui peut démultiplier les boîtes de l'exomil, et puis votre Scheherazade qui arrive toute voilée d'une Tunisie révolutionnaire, ça vous permet quoi ? De dire quoi ?
De parler de ces femmes qui font la révolution partout, avec ou sans voile, qui défendent des idées antipatriarcales, anti-impérialistes. Et on a un Jésus dont on sent qu'il pourrait être allié de ce combat, mais qui est encore...
Il est en manque de révolution, lui. Il est en panne de révolution. Il la cherche.
Tout à fait, oui, puisqu'elle a été un peu instrumentalisée, dévoyée. Et ça permet aussi de parler de cette libération et de ces guerres d'Irak qui sont faites au nom de la libération des femmes. Là encore, hypocrisie guerrière de Bush et compagnie. Scheherazade remet tout ça à sa place.
Vous êtes quand même en même temps très identifiée à Angela Davis. Vous n'avez pas la coupe afro, mais vous avez bien le discours quand même. Hein.
Peut-être.
Ça vous dirait d'entendre parler vietnamien ?
Absolument. Xong rồi, con đổ ra cái dĩa. Còn thịt thì cũng vậy, mở cho thiệt lắm. Con cho cái này vào nước sôi. Phải có một tí mỡ thì rau nó mới bấm. Như vậy nó mới đẹp. Món ăn phải vừa ngon mà vừa đẹp. Đối với người nhà quê mình, đẹp hay không gì thì nó cũng vô bụng. Còn đối với bà chủ thì khác. Bây giờ thịt chín rồi, lấy rau đổ vào đây. Dans quelle cuisine sommes-nous ? Cuisine de rue presque. On est dans L'odeur de la papaye verte, le film de Tran Anh Hung. Et cette séquence, je m'en souviens parce que je l'avais vue avec ma mère. Et il se trouve qu'au moment où dans le film où cette grand-mère explique à sa petite fille comment on cuisine, qu'on voit la nourriture qui frémit dans la poêle. Je me souviens que dans la salle de cinéma, je pense qu'il y avait d'autres Vietnamiens parce qu'il y a eu un sursaut des paroles et voilà ce rapport un peu gourmand à la bouche aux légumes. Voilà, c'est vrai que le rapport à la nourriture chez les Vietnamiens, c'est quelque chose.
Et vous aimez entendre parler vietnamien, vous ?
J'aime beaucoup entendre parler vietnamien, c'est une musique, ça reste une musique puisque je ne le parle pas, même si ma mère avait essayé de nous apprendre et puis voilà, on a été réticents ou intéressés par d'autres choses. Mais je pense que c'est une musique qui est présente dans ma tête, qui m'émeut. Je pense que par exemple dans Saigon de Caroline Nguyen Nguyen, ce qui m'a fait éclater en larmes de la troisième minute, je pense que c'est vraiment la langue vietnamienne, le fait d'entendre parler français avec un fort accent vietnamien, des choses qu'on n'entend jamais sur les plateaux de théâtre. Donc oui, je pense que cette langue, elle est présente pour moi et qu'il faudrait que je chemine aussi vers elle davantage.
Qu'est-ce qu'il y a de cette culture vietnamienne, confucéenne, qui vous aurait été transmise ?
Des choses conscientes, inconscientes. sur le confucianisme, ce respect des aînés, je sais pas parce que je suis... Il y a aussi l'insolence militante et politique.
Tu as une poignée de cendres dans ta valise et tu ne sais pas quoi en faire. Une poignée de cendres dans une boîte à thé. Ça, c'est tiré de votre pièce, Les ombres et les lèvres. Pour dire et pour vous demander, qu'est-ce que vous faites, vous, de vos morts ?
Eh bien, c'est plus facile d'en parler dans les pièces de théâtre que dans la vie. Mais je pense qu'on les porte. Et je pense que je vais les écrire. Là, j'ai parlé de ma mère dans Les ombres et les lèvres. Je pense que le prochain projet Circulation Capitale va donner aussi une place à mes grands-parents.
Justement, qu'est-ce qu'il reste de votre grand-mère maternelle ?
Des souvenirs, des cahiers, en fait, où elle, contrairement à mon grand-père maternel qui a laissé des récits en français et en vietnamien pour transmettre des choses de son histoire, ma grand-mère, elle a laissé des... Enfin, c'était pas conscient, mais en tout cas, j'ai des cahiers remplis de prières catholiques, puisqu'elle était très, très, très pieuse.
Et, elle était convertie, donc.
Oui, tout à fait. École des sœurs, etc., etc. Mais vraiment avec cette religiosité catholique, chrétienne, populaire, que je trouvais pas si loin de l'animisme des fois. Et voilà, j'ai ces cahiers mystérieux où c'est des prières recopiées, et donc je vais aussi chercher ce qu'il y a entre les lignes.
Sol majeur.
Avec dans les godillots un petit chant breton traditionnel.
Du Tralalero de Gênes en Italie. Quel est mon sol majeur ? Je dirais qu'ils sont multiples et j'ai plutôt envie de parler de paysages. Je pense que je viens de Bretagne, de ces paysages bretons. Autant tout ce qui est revendication identitaire, régionalisme m'intéresse pas. Par contre, je pense que je suis constituée de ces paysages.
Lesquels alors ?
La campagne bretonne comme la côte, comme l'Atlantique, la Manche, cette côte sauvage. Mais de même que je suis constituée des paysages du Vietnam, hein, que ce soit la mer, la montagne, ces villes incroyables et tentaculaires. Je suis constituée aussi, je pense, de petits bouts d'Italie, et notamment de Gênes, où j'ai fait une partie de mes études. Je travaillais à l'époque sur le théâtre de Dario Fo. Et c'est une ville dont je suis vraiment tombée amoureuse géographiquement. Puis c'est une ville aussi qui est un lieu de tragédie politique, puisque j'y suis retournée pour les manifestations du G8 en 2001, et il y a eu la mort de ce jeune manifestant, Carlo Giuliani, et cette police qui pouvait faire tout et n'importe quoi. Et puis je pense aussi que finalement, peut-être en étant de double culture, je me suis jamais reconnue, on parlait tout à l'heure de la patrie. Pour moi, le peuple français, j'arrive pas. Par contre, en Italie, la culture populaire italienne, ou au Vietnam, voilà, j'ai plus la sensation d'avoir des accointances, des appartenances, alors peut-être c'est totalement fantasmé, mais avec quelque chose qui serait, voilà, j'ai un peuple en Italie, j'ai un peuple au Vietnam.
Pourquoi vous y arrivez pas avec le peuple français, comme vous dites?
Peut-être parce qu'il est terriblement colonial.
Il est terriblement en vous?
Il est terriblement en moi aussi, mais ouais. J'ai en tout cas ce questionnement. C'est terriblement compliqué pour moi, et je sais que j'ai eu tendance aussi à aller chercher ailleurs des paysages, des appartenances, des sensations.
Est-ce que ça veut dire quelque chose d'avoir une sensibilité eurasienne ?
C'est très compliqué comme question, parce que ce mot-là est compliqué aussi. Je pense qu'on est de toute façon constitué de tous les ancrages desquels on vient ou dans lesquels on nous a assignés. Donc, moi, je parlerais de sensibilité située. Je suis construite de ces différents ancrages culturels, de ces différents pays. Je ne sais pas si on peut essentialiser la sensibilité eurasienne, ça me semble compliqué.
Autant pour moi.
En sol majeur, @rfi.fr
Les ombres et les lèvres, qui vient donc de paraître chez Lanzmann Éditeur, c'est signé par notre invitée Marine Bachelot-Nuyen. Et pour nos grands voyageurs, c'est à signaler que la captation de cette pièce sera projetée le 6 mars au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Ça, c'est un grand moment en perspective. Merci à vous, Marine. On va se dire au revoir, je crois. Enfin, vous avez un choix à faire entre Ginevra Di Marco, d'un côté, et de l'autre, Nina Simone.
Ginevra Di Marco.
Why?
Malarazza, c'est un poème sicilien mis en musique par Ginevra Di Marco qui raconte l'histoire d'un cerf qui demande au Christ de le défendre contre son patron. Le Christ lui répond « Pourquoi tu te lamentes? Prends un bâton, bats-toi, mets les dents dehors et fais-toi justice toi-même. »
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur Pure Radio. Et derrière votre poste, bien sûr, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Marguerite Aboué. À demain.